Bonsoir et bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information reprend ce soir et pour un dernier trimestre ses rencontres autour de la création littéraire. Et nous sommes très heureux d'avoir ce soir pour invité Régis Geoffrey, qui va donc nous entretenir de son parcours d'écriture, de son univers singulier et d'observateur féroce de notre époque. Univers qui frôle souvent le grotesque et l'absurde. Et qui se déploie au travers de plus d'une quinzaine de romans, parmi lesquels, pour ne citer que les plus récents, Asile de fous, Microfiction, Sévère, ou encore un tout dernier roman qui paraît ces jours-ci dans les librairies, Tibère et Marjorie. Il va s'entretenir avec Oriane Jeancourt du magazine Transfuge. Je vais lui laisser tout de suite la parole en vous souhaitant une excellente soirée.
Eh bien, merci beaucoup. En effet, on est ravis d'accueillir Régis Geoffrey aujourd'hui, qui est donc, vous l'avez dit, est auteur de plus d'une quinzaine de romans. Dans ce cycle « Écrire, écrire, pourquoi ?», qui s'intéresse particulièrement aux origines de l'écriture l'accès à la littérature, la relation qu'entretient un écrivain avec la littérature. Alors, Régis Geoffrey, peut-être une première question. Ça fait 25 ans que vous écrivez, je crois.
Beaucoup plus.
Beaucoup plus. 25 ans que vous êtes publié.
Voilà, oui.
Et on vous présente ces dernières années comme l'écrivain, on dit souvent l'écrivain de la folie ordinaire, l'écrivain du bizarre. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être l'écrivain officiel du bizarre ?
Oh, je ne pense pas que je sois l'écrivain. C'est un peu passé, hein. C'était... Au début de, j'allais dire de mon revival, c'est un peu exagéré, mais j'ai été publié à 29 ans, 30 ans, et puis j'ai publié 3 livres. Et puis après, ça s'est un peu passé de mode de me publier. C'est drôle parce que les mêmes éditeurs qui ne voulaient pas me publier, ont voulu me publier en poche après. C'est pas très intéressant. Oui, c'était un peu au début, on m'avait fait cette image terrible. Je sais pas trop pourquoi, parce que il me semble que c'est assez franco-français. Moi, ce dont je m'aperçois, c'est que il y a un grand manque de liberté en France sur le plan de la littérature, qui peut-être se dissipe un peu, mais je pense que la France finalement n'aime la littérature que quand elle lui renvoie un reflet affadi du réel. C'est-à-dire qu'on aime bien la littérature éthérée, la littérature qui est inoffensive, la littérature consensuelle, la littérature grise avec un petit coucher de soleil à la fin, ce qui fait de la lumière. C'est étrange parce que dans le cinéma, c'est pas du tout pareil. Même le cinéma français, on a beaucoup plus de violence, beaucoup plus de cynisme. Je pense que l'époque est un peu passée. Il n'y a pas que moi qui est concerné par ça. Mais donc, moi, je pense que je suis d'autant moins bizarre que la réalité est beaucoup plus bizarre que moi et qu'elle est beaucoup plus dure que moi. Et qu'elle est beaucoup plus étrange. Et je pense que le rôle d'un écrivain, s'il n'est pas à peu près égal à un chien, je pense à un chien parce que c'est un animal domestiqué, je ne parle pas de loup, il est quand même obligé de tenir compte de son époque, de parler de son époque. Il n'y a pas d'époque qui ait pu être des époques confortables et douces. Mais ce qu'il me semble, c'est que si on n'a pas un regard d'entomologiste, mais un regard de terroriste, c'est-à-dire si on n'a pas une écriture qui fait exploser ce dont on parle, qui le réduit en miettes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que c'est pas utile d'écrire finalement. Mmh.
Est-ce que vous parlez du roman qui devrait être la chronique d'une époque ? Et justement, dans Tibère et Marjorie, vous avez dit que vous souhaitiez raconter les amours de notre temps. Alors, est-ce que vous vous considérez comme un romancier d'époque ?
Disons que c'est quelque chose que j'ai dit après coup. Hein. Je n'avais pas du tout l'intention de raconter spécialement les amours de notre temps. C'est une réflexion qui m'est venue après coup parce que finalement, ça m'a semblé assez... Mais vous savez, moi, je ne peux pas vivre des amours de mon temps. Hein. C'est-à-dire, vous savez, moi, j'ai 55 ans. Si je vivais des amours de mon temps, je sais pas, il faudrait que j'aille dans les asiles de vieux, que je trouve des gens qui, je sais pas, qui étaient à Woodstock, etc. Enfin, moi, j'avais vu au cinéma, vous voyez, c'est pas passionnant. Donc, on vit forcément des amours de son temps, donc, et on est forcément imprégné par ce qu'on vit. En effet, là, ce qui est peut-être plus frappant, c'est que c'est un roman d'amour qui se développe dans Paris. Et comme Paris est une ville, et une grande ville, c'est quelque chose de tout de suite éminemment contemporain. C'est-à-dire autant si vous situez une action dans un village, vous pouvez vous croire longtemps en arrière, pas parce que les gens sont arriérés, mais parce que le village, ça évolue beaucoup moins. Mais Paris, comme New York, comme Londres, comme toutes les villes, ou même Marseille d'ailleurs, ou Lyon, c'est quelque chose qui palpite et qui évolue. C'est quelque chose où l'époque laisse sa trace à tout instant. Donc c'est ce qui fait, ce qui est plutôt le héros du livre finalement, c'est Paris. Et c'est des gens qui se perdent un peu dans Paris sans le rechercher. C'est-à-dire c'est des gens qui vivent une fin d'histoire d'amour qui est en même temps un peu comme les amours d'aujourd'hui qui sont susceptibles de s'achever à tout instant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune barrière et donc les amours peuvent recommencer, commencer ou s'achever à tout instant. Et là, c'est une histoire d'amour qui finit, qui recommence et qui s'ausculte. C'est-à-dire que quand une histoire d'amour en est à s'ausculter, je ne dirais pas que c'est forcément le début de la fin, mais c'est au moins un moment où les temps de la passion sont terminés, où il n'y a plus ce côté passionnel. Et c'est ce qui peut-être nous terrorise. C'est-à-dire, on est justement, alors là on dira dans une époque où on met la passion au premier, on met la passion en avant-garde, je dirais. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à la passion de l'amour est beau. Et dès qu'on sort de la passion, qu'on tombe, disons, dans un monde plus sage, plus adulte, là, on commence à trouver que les choses deviennent sordides. C'est très curieux. C'est-à-dire qu'on est, on ne loue finalement dans l'espèce humaine que l'ébriété. Et cette ébriété qui nous est... autorisé dans les pays où nous vivons. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'ébriété du héros. On a complètement achevé cette espèce. Et donc, la seule possibilité d'incandescence nous est donnée dans l'amour très officiellement. C'est-à-dire que... aimer est finalement la seule aventure qui nous est autorisée. Et donc, quand on est dans l'histoire d'un couple qui finalement s'analyse, un couple qui parle de sexualité, on a l'impression qu'on est entré dans le Titanic, quoi, et qu'on a tapé contre l'iceberg.
Il y a quelque chose qui est frappant dans Tibère et Marjorie et aussi dans vos précédents livres, que ce soit Asile de fous, autobiographie, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une glaciation des sentiments chez vos personnages et dans la société. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie de mettre en scène ?
Mais c'est vrai, moi j'avais envie de rien parce que moi j'écris sans préméditation. C'est un meurtre sans préméditation. Mais oui, ça, la glaciation des choses, je pense que c'est plutôt lié à la façon d'écrire. C'est plutôt lié, si vous voulez, c'est un peu comme quand vous vous présentez en public, vous vous séchez les cheveux. Bon. Il y a beaucoup d'écrivains qui arrivent avec les cheveux mouillés, la plume humide, et je ne parle pas du reste. C'est peut-être une attitude peut-être de stricte politesse, de stricte sorte de savoir-vivre, je dirais. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans l'humidité, je dirais, qu'on est dans les sentiments. Les sentiments, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et je ne crois pas, je crois pas que l'amour soit forcément le lieu de la niaiserie et de la peluche. C'est quelque chose qui est faux dans le réel. C'est-à-dire que l'amour, il y a un côté... vous savez, moi, je ne suis jamais rentré dans le truc Eros et Thanatos, je n'ai jamais rien compris. C'est-à-dire le côté, le sexe, la mort, moi, je n'ai jamais rien compris à ça. C'est un peu comme l'écriture, la mort, écrire, c'est sortir de la mort, etc. Je n'ai jamais rien compris à cette histoire, hein, donc ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne pense pas qu'il y a Eros et Thanatos, je ne pense pas du tout à ça. Mais je pense que c'est violent, l'amour. Je pense qu'à partir du moment où il y a amour, il y a violence. Je pense que parfois, la haine est dans l'amour, la guerre est dans l'amour. C'est ce qui fait le charme de l'amour et c'est ce qui fait toutes les histoires d'amour. Toutes les histoires d'amour sont basées là-dessus. Et donc, l'écriture que je qualifierais d'humide, vous savez, de presque plaintive, m'a toujours fait profondément gerber. Vous savez que Artaud disait les trois quarts de la littérature, c'est de la cochonnerie. Je pourrais reprendre ce terme à mon compte. Je pense que tout ce qui est littérature, et on n'a qu'un angle pour savoir ce qui est littérature, et ce n'est pas du tout de la prétention en me disant que je me mets là-dedans, c'est ce qui est resté. Ce qui est resté n'est pas humide, ce qui est resté est extrêmement sec. Regardez l'œuvre de Kafka, par exemple. C'est une œuvre d'une sécheresse absolue. Pourtant, je voudrais lever une ambiguïté, c'est que vous avez un homme comme Kafka, qui était d'une sensibilité extrême. Vous pouvez le voir dans les entretiens avec Janouch. Janouch, c'est un étudiant qui avait fait de nombreuses rencontres avec Kafka, qui avait fait des marches dans Prague avec lui. Et Kafka s'était confié à lui. On a un homme d'une sensibilité extrême, d'une bonté terrible. Et ce n'est pas quelque chose qui transparaît dans son livre. Et donc, il y a chez Kafka, dans son écriture, quelque chose d'extrêmement réaliste, d'extrêmement pessimiste et d'extrêmement sec et dur. Quand on pense à des auteurs même français, on a toujours l'impression qu'on est un peu dans les chamallows. Vous savez, les chamallows. Vous en avez plein la bouche et après, il n'y a plus rien. Vous voyez, les chamallows. Vous voyez, ça, c'est la littérature française, vous voyez, qu'on aime bien. C'est la littérature chamallow, quoi. Vous voyez, la daube, quoi. La cuisine française, vous voyez, on s'en fout plein. Mais ce n'est pas ça. La littérature, c'est beaucoup plus sec. Vous voyez, d'ailleurs, Kafka était très maigre, et Proust également. Proust, il y a dans Proust aussi toute cette cruauté. Il n'y a pas du tout de sentiment humide chez Proust. Vous n'en trouverez jamais. Il y a toujours ce regard ironique, c'est peu dire, c'est un regard destructeur sur la société, sur tout ce dont il parle, un regard scandaleux. C'est scandaleux, Proust. Il serait plus lu si on le disait scandaleux. C'est scandaleux, Proust. Proust, c'est scandaleux. Je suis désolé de vous le dire, mais pour son époque, c'était vraiment provocateur. Un livre où on s'aperçoit page après page, volume après volume, que tous les personnages sont homosexuels, c'est quand même très provocateur à l'époque où Proust l'a écrit, vu qu'en France, il y avait encore des homosexuels emprisonnés pour seul fait d'homosexualité, et je ne parle pas en Allemagne. Donc c'est toujours très sec, la littérature. C'est quelque chose qu'on a déjà fait rissoler. Vous voyez, c'est pas mouillé, quoi. Vous voyez justement la daube, quoi. Vous mouillez la daube, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose d'extrêmement sec, comme chez Flaubert. Balzac aussi est très sec dans ses livres. Il a un regard extrêmement cruel. Voltaire également. Si je prends Candide, qui est le plus connu de ses livres. Rousseau n'est pas humide. Rousseau est extrêmement... il dissèque beaucoup les choses. Il est assez sec. Il a un peu de cette rigueur protestante, je dirais. Moi, la littérature qui n'est pas dans la cruauté n'existe pas parce que, pour moi, la cruauté n'existe pas. C'est simplement le regard tel qu'il est. Regardez tel que vous voyez les gens et tel que vous voyez les choses, et puis voyez ce que vous dites après. Vous ne dites jamais ce que vous pensez, surtout dans la parole publique. Vous avez quelque chose de très frappant, c'est qu'on est dans un pays, comme d'autres pays d'ailleurs, ça nous vient, c'est pas quelque chose qui a son origine en France, qui s'appelle le politiquement correct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parler publiquement comme on ne pense pas et comme on ne parle pas. Voyez. Dans la littérature, c'est quand même un espace non seulement de lucidité, mais je dirais de vérité. C'est-à-dire que tout se passe dans la littérature comme si on écrivait, comme si en fait, je ne veux pas lier à la littérature à la mort, mais comme si on était déjà mort, c'est-à-dire qu'il y a une sincérité totale. Vous savez, souvent chez les personnes âgées, quand elles vous parlent de leur vie, quand elles vous parlent de l'histoire, vous avez une vision extrêmement différente, parce qu'il y a un âge où ils commencent à dire ce qui, personne commence à dire exactement ce qu'elles pensent. Et quand même elle s'aventure à parler de sexualité, on s'aperçoit que c'est à la fois beaucoup plus vivant et ça dit beaucoup plus de choses que quand ce sont des personnes qui sont encore en scène. Vous savez, c'est-à-dire que tout, quand vous êtes en scène, que ce soit sur une scène ou dans la vie, toutes les paroles que vous dites peuvent être retenues contre vous. Et moi, je sens ça chez certaines personnes âgées. À un moment, ils s'en foutent. C'est-à-dire, on est sur la dernière ligne droite, et à ce moment-là, on peut dire rigoureusement tout ce qu'on pense, et peu importe ce qu'on va penser de ce que vous avez dit. Peut-être que la littérature, c'est ça. Peut-être. Moi, c'était pas un reproche, mais ce qualificatif qu'on a pu m'attribuer d'être noir ou d'être dans l'ironie cruelle, personnellement, c'est pas du tout une intention personnelle. Moi, j'aimerais bien finalement qu'on juge les gens sur leurs livres. Et qu'on déduise pas. Vous savez, c'est un peu. C'est terminé, mais à une époque, c'était assez lourd pour moi parce que on déduisait ma personne de mes livres. Et c'était très, très désagréable, quoi. C'est un peu comme si, quand vous rencontriez Alexandre Dumas, vous aviez peur de rentrer dans la prison du Château d'If, quoi. Maintenant, c'est un peu dissipé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une vieille histoire, parce que Huysmans, déjà, disait que lui, on lui reprochait beaucoup de choses, on lui reprochait une sorte de décadence et tout ça, mais il disait, mais tous les écrivains qui écrivent des livres sentimentaux et qui sont dans les rails de l'époque sont souvent des gens complètement immoraux et dépravés. Voilà.
Mais vous avez écrit dans les premières pages de ces vers, je suis romancier, je mens comme un meurtrier. J'imagine que ça a un lien avec ce que vous venez de dire. Est-ce que justement c'est cette cruauté nécessaire du romancier qui fait que vous peuplez autant vos romans de meurtriers ou de toutes sortes de monstres?
Je ne peux pas parler de ces vers. Je n'en ai pas le droit.
On peut parler d'autres meurtriers, d'autres romans?
Le fait que... On va peut-être poser une autre question. Voilà. Est-ce que, est-ce que les écrivains, dans la pratique de leur écriture, doivent tenir compte d'une morale quelconque? Pour moi, la réponse est négative à partir du moment où ce n'est pas un lieu de morale. Moi, je suis extrêmement moral en même temps dans l'écriture parce que j'ai toujours été... J'ai toujours été extrêmement frileux sur la littérature que je peux appeler une littérature de délation. C'est-à-dire la littérature qui consiste à mettre mal à l'aise des gens de son entourage en racontant leur intimité alors qu'ils ne l'ont pas demandé. J'ai trouvé toujours assez déloyal parce que souvent les gens ne sont pas armés, les gens ne sont pas forcément écrivains. Voilà, mais en ce qui concerne ce côté meurtrier, oui, il y a peut-être un côté meurtrier, comme je disais, terroriste. En même temps, on ne meurt pas dans les livres. Vous savez, moi, les livres, ça m'a toujours fait penser aux dessins animés. Vous voyez, par exemple, un dessin animé, alors pour faire intellectuel, je dirais les dessins animés de Tex Avery. C'est bien, là, on est à Pompidou, donc Tex Avery, on peut en parler. Donc, vous voyez, dans les dessins animés de Tex Avery, qui nous passionnent tous, parce que c'est quand même bien, Tex Avery. Hein. C'est bien, hein. C'est quand même un truc, hein. C'est vachement bien. Donc, on va parler de Tex Avery. Et dans les dessins animés de Tex Avery, je crois que j'ai vu plus de dessins de Walt Disney que de Tex Avery, mais enfin, je me lance. On ne meurt pas, vous voyez ce que je veux dire. On tombe d'une montagne, on a des accidents de voiture, on vous coupe la tête, mais on ne meurt jamais. Et moi, ça m'a toujours paru extrêmement symbolique de la littérature. Vous savez, il y a une phrase qui est merveilleuse, de Gilbert Lely, qui était un grand sadien, je dirais, pas un grand sadique, mais un grand sadien, qui est un homme que j'ai jamais connu, mais qui est admirable parce que il est admirable comme Jean-Jacques Pauvert, comme Régine Deforges, ces gens qui ont bravé toutes les morales, ces gens qui sont allés dans des tribunaux où ils ont été maltraités. Je n'ose même pas imaginer comment on pouvait traiter une femme comme Régine Deforges quand elle publiait des textes à caractère sexuel, je dirais. Gilbert Lely qui a dit, je crois que c'est dans une préface aux 120 journées de Sodome, « Au matin du 121e jour, le langage étendra sa merci. » C'est d'une beauté extraordinaire et je trouve que c'est une phrase bouleversante. C'est-à-dire que ce livre de Sade, les 120 journées de Sodome, qui est le livre le plus dur, le plus cruel, le plus affreux, le plus difficile à supporter pour le lecteur. Voilà, à la fin, vous savez, le langage étendra sa merci. C'est un peu comme alors là, je me lance dans la culture latine, je vais peut-être faire un contresens, mais vous savez, dans le Dies Irae, la colère de Dieu, et ce mouvement se termine, je crois, par le lacrymosa, vous savez, par le pardon, les larmes, etc. Et moi, cette parole de Gilbert Lely, ça me fait penser à ça. Et ça, c'est toute la littérature dont il parle. C'est tous ces personnages qui finalement sont devenus extrêmement vivants le temps d'un livre et qui pourtant n'existent pas. Ça, c'est un grand mystère peut-être de la littérature. C'est peut-être un mystère, ça a un côté un peu religieux. Je dirais que c'est un peu une magie et c'est assez difficile de l'expliquer autrement qu'en essayant de voir par un langage métaphorique. Et cette phrase est merveilleuse.
Et ce mystère est aussi très présent d'ailleurs dans tous vos romans, puisque chaque personnage est mille personnages. D'ailleurs, vous l'avez dit dans Microfiction, je n'ai pas un autre chez vous, c'est tout le monde et n'importe qui. Est-ce que c'est cela qui vous passionne, la foule des personnages que peut être chacun ?
Oui, il y a cette question de la foule, oui, parce qu'on est de plus en plus... je vous dirais qu'on sait même plus ce qu'on est moi, je trouve qu'on sait même pas... on arrive difficilement à se définir parce qu'on est tellement bombardé qu'on ne sait plus. On ne sait plus qui on est. Les gens se définissent bientôt plus que par leur métier. Parce qu'autrement, on ne sait plus du tout qui on est. On est trop, on est trop sollicité par cette espèce de nuage, de brume médiatique. C'est-à-dire où on vous met dans la tête chaque jour quelque chose de différent. Où on vous met des problèmes que vous n'avez jamais eus. Il y a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que les gens... tout le monde maintenant se définit, les gens se définissent par deux choses, par le métier qu'ils font et par leur famille. Ça, c'est des points qui demeurent. Mais après, ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'on veut, alors moi je me mets dedans, ce qu'on veut, ce qu'on est, les valeurs qu'on peut avoir, on ne le sait plus. Parce qu'on nous les donne tous les jours et elles sont extrêmement différentes. Et on n'a pas du tout la notion du temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les valeurs et les préoccupations d'aujourd'hui sont les mêmes qu'on avait il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Et c'est faux. C'est faux parce que Je vais vous dire un truc, je me lance là dans l'avenir, mais est-ce qu'un jour, est-ce que dans 20 ans, puisque c'est enregistré, si Internet n'a pas explosé d'ici là, peut-être que je ne me tromperai pas, hein, peut-être que je me tromperai, mais est-ce que vous n'imaginez pas que dans 20 ans, par exemple, quand il y aura quelqu'un qui va mourir de froid, on va prendre quelqu'un qui meurt de froid, admettons, à Paris, voilà, on va dire, est-ce que vous ne croyez pas que dans 20 ans, il est possible que quand quelqu'un mourra de froid dans une rue, on mettra en examen toute la rue et qu'on dira, vous êtes passé devant lui, vous n'avez rien fait. Alors vous direz, oui, j'ai appelé les bleus, oui, mais il ne voulait pas y aller. Pourquoi vous n'êtes pas resté? Pourquoi vous ne l'avez pas monté chez lui, chez vous? Pourquoi vous n'êtes pas resté toute la nuit à le veiller? Peut-être qu'on arrivera à ça. Et on aura honte, on ne dira pas, oui, mais à l'époque, moi j'avais quelqu'un qui est mort de froid dans le quartier, je crois que j'y étais passé, mais je n'avais rien fait. À ce moment-là, on aura oublié. Peut-être que ce sera quelque chose qui nous paraîtra complètement immoral dans 20 ans et que ce sera tellement immoral qu'on ne pourra même pas l'expliquer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas expliquer à des enfants qui n'auront pas connu notre époque actuelle qu'il y a eu une époque où quand quelqu'un mourait de froid quelque part, on ne mettait pas en examen toutes les personnes qui étaient susceptibles de l'avoir croisé. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui sera peut-être une morale plus tard. Et nous, on a des morales aujourd'hui qui varient. Il y a l'exemple classique qui est Roman Polanski, qui a commis, qui est accusé d'avoir commis un viol. Je ne rentre pas du tout dans les détails de savoir s'il était coupable ou pas coupable. Je n'en sais strictement rien. Simplement, si on avait un peu de mémoire, on aurait regardé Alina, on aurait regardé la presse, tous les journaux des années 78 quand il est rentré en France, et on aurait dit, espèce d'enfoiré, toi qui es chroniqueur je ne sais où et qui t'insurge, tu travaillais à l'époque, tu écrivais dans tel journal, tu t'es loué du fait que Polanski avait échappé à la pudibonderie américaine, tu as dit que c'était merveilleux, tu as dit que c'était rien finalement ce qu'il avait fait, et maintenant là tu fais un appel au meurtre. Voilà. Et ça, c'est possible parce que non seulement on est dans l'oubli, mais on est une religion de l'oubli. C'est-à-dire que ce petit travail que je n'ai pas fait de remonter sur les journaux, dans les médias de l'époque, personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Alors moi, je suis un peu flemmard, mais simplement, moi, j'ai la mémoire. Je me rappelle très bien que quand il a été accueilli en France, on parlait de cette espèce de choses horribles du protestantisme américain qui faisait qu'ils avaient une morale épouvantable. Et tout le monde était ravi d'accueillir ce grand cinéaste. Et tous ces mêmes gens qui étaient ravis, je vous signale qu'il y avait quand même un gouvernement à l'époque. Il y avait un président de la République, il y avait un premier ministre. Je ne vais pas les dénoncer, mais vous pouvez les retrouver, comme c'était en 78. Personne n'a rien dit. Est-ce qu'il y a un ministre de la Culture, de l'Intérieur, qui a dit quelque chose? Personne. Personne n'a rien dit. Est-ce qu'il y a un député qui a dit quelque chose? Aucun. Et ces gens-là sont toujours vivants. Vous voyez? Comme c'est étrange. C'est bizarre quand même. Donc, on parlait du temps. Il est temps d'en parler. Je peux vous parler à nouveau du temps, parce que finalement, c'est la dimension de l'écriture. Le temps, c'est la dimension de l'écriture et ce n'est pas du tout l'espace, bizarrement. Les romans d'aventure sont extrêmement finalement marginaux. Ils ont été écrits par des gens qui étaient peu aventureux, comme un peu Jules Verne. Et finalement, la matière, la chose dont on parle dans la littérature et que les écrivains se coltinent comme tout le monde, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est la dimension inévitable. Vous pouvez éviter l'espace de la Terre, l'espace des étoiles, mais le temps, vous ne pouvez pas l'éviter. Et la littérature, c'est le temps. Pourquoi ? Parce qu'en même temps qu'on est pris par le temps en tant qu'écrivain ou en tant que lecteur, la littérature, c'est la durée. Vous n'êtes jamais rendu compte à quel point l'écriture d'un roman, c'était anormal. C'est pas du tout naturel, l'écriture d'un roman. La seule écriture qui pourrait être naturelle, c'est le poème, c'est l'aphorisme. C'est la microfiction, mais alors vraiment, c'est presque l'haïku, c'est ça ?
L'haïku.
Mais c'est pas le roman. Le roman, c'est complètement anormal. C'est complètement anormal de poursuivre la même idée si longtemps. Et ça, c'est le temps. C'est l'expérience du temps. Alors, chez l'écrivain, c'est la plus aride, la plus difficile. Cette façon de ne pas avoir tout de suite. C'est une sorte d'entrée féroce et difficile dans une sorte d'âge adulte. C'est-à-dire le fait de cheminer lentement, d'arriver jusqu'au bout d'une histoire longue. En fait, oui, ce qui pour moi a donné la littérature, c'est vraiment la longueur du roman. Il y a quelque chose dans la longueur qui fait que quelque chose se produit. Les frères Karamazov, si c'était un livre de 100 pages, il n'y aurait pas cette traversée des choses. Voilà, cette espèce de façon de creuser une histoire, de la creuser, pas de la raconter, parce que finalement, par exemple, vous pouvez raconter l'histoire qui se passe dans Crime et Châtiment en quelques minutes. C'est complètement anormal de la faire durer, de la pousser dans ses derniers retranchements, de savoir ce qu'il y avait derrière chaque chose et pourquoi il y avait cet escalier qu'il descendait, pourquoi il y avait ce tiroir avec l'argent, etc. Pourquoi il y a cette approche du procureur qui peu à peu prend. C'est très anormal, vous voyez ça nulle part. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette chose, par exemple, dès que vous êtes dans le document. Le document, pour détaillé qu'il soit, ne va pas aussi loin, parce qu'il va au fait, et le fait est court. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a Georges Perec qui avait fait... je ne sais plus comment ça s'appelait, si c'était espèce d'espace ou quelque chose comme ça. Il essayait d'épuiser un lieu à telle heure. C'est-à-dire que c'est une entreprise infinie, impossible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette tentative, cette chose romanesque, la fiction, vous essayez de la transformer en quelque chose qui ne soit pas une fiction, vous n'y arriverez jamais. C'est-à-dire que décrire la salle là, c'est impossible. Vous pouvez la raconter, vous pouvez faire un roman sur la salle, vous ne l'aurez jamais épuisé dans une description, attentive et entomologiste, pour reprendre le terme que j'avais employé. Voilà, la littérature, c'est vraiment le temps, c'est quelque chose qui traverse une vie. Il y a une notion de vie qui passe dans la littérature, cette espèce de chose assez étrange d'avoir écrit tout ça. Moi, c'est l'impression que j'ai, mais je n'ai pas mes livres chez moi parce que ça me rendrait prétentieux rien que de voir tout ce que j'ai pu écrire, alors que finalement, c'est quelque chose qui ne peut rien pour vous. C'est-à-dire que vous repartez à zéro chaque jour en vous remettant à écrire. Je ne sais pas pourquoi je parlais du temps. C'est pas mal comme phrase.
Oui, c'est très bien.
Je ne sais pas pourquoi je parlais du temps. C'est beau quand même. Non, mais c'est vrai, c'est beau. Non, mais on va le refaire. Je ne sais pas pourquoi je parlais du temps.
Et ben justement, vous avez une très belle expression sur le temps dans Microfiction. Vous dites que la littérature est un four à cuire le temps. C'est un peu cette idée-là.
Ah oui, mais c'est pas mal. Je m'en souvenais pas. Oui, oui, c'est un four à cuire le temps, oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre manière. Et finalement, c'est... comme toute activité humaine, une sorte de tentative désespérée de retenir le temps, si vous voulez. C'est une tentative d'autant plus absurde que toutes les philosophies ont été écrites pour nous dire justement cueillez le jour, etc., profitez de votre vie, ce qui est impossible. C'est-à-dire que vous n'avez pas une façon de profiter plus de votre vie et de profiter plus du temps qui passe que celle que vous avez. Toutes les façons de passer sa vie, ce sera du temps qui sera perdu de toute façon. Donc, le four à cuire le temps, c'est une image, qui est, vous savez, c'est un peu les tentations des écrivains d'essayer de faire rencontrer, un peu comme disait Lautréamont, un parapluie, je ne sais plus quoi, sur une table de dissection. Les écrivains souvent sont très contents, vous voyez. Je pense que j'ai été très content après avoir écrit que c'était un four à cuire le temps, parce que ça avait un côté où on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Voilà.
Dans Univers, vous évoquez votre sentiment d'euphorie lorsque vous écrivez. Alors d'où vient l'euphorie dans l'écriture? Est-ce que c'est d'un sentiment de puissance, éventuellement?
Oui, il y a un sentiment de puissance absolue qu'on connaît, j'allais dire, dans les arts, je dirais pas majeurs, mais de base. C'est-à-dire la composition, la peinture, la littérature. Parce qu'on n'a pas besoin de matière. C'est-à-dire qu'on est maître de la matière. Un architecte n'est pas maître de la matière, mais un écrivain, oui. On n'a pas besoin de matière du tout. C'est-à-dire que le médium, la chose sur laquelle on écrit, ou la façon dont ce sera lu, ça n'a pas de poids, ça ne pèse pas. C'est-à-dire que la littérature ne pèse pas parce que d'abord, un livre, on pourrait le réduire en réduisant la typographie. Et puis vous voyez bien, un fichier, ça ne pèse rien. C'est-à-dire que, et donc ce côté-là, c'est une puissance totale. C'est la puissance totale de la personne qui écrit et qui peut tout faire surgir. C'est, sur ce plan-là en tout cas, c'est un état d'enfance. C'est un état d'enfance, c'est un état de nouveau-né qui croit que le monde lui appartient. C'est ça, les bébés, il y a des jouets, c'est des sortes de girafes, vous voyez, c'est des jouets qui ont dû être sortis, tout le monde en a eu, parce que c'est des jouets qui ont été sortis à des milliards d'exemplaires. Et vous présentez la girafe à un bébé, il fait ça, vous voyez, il l'attrape. Et là, il peut tout attraper, vous voyez, il pourrait vouloir attraper la lumière. Ben, dans la littérature, c'est possible, cela nous est donné, et c'est bien, et c'est quelque chose qu'on se donne à soi-même. On est en dehors de la société, parce que par exemple un cinéaste doit demander pour des questions de production, mais il doit se coltiner la matière humaine, il doit se coltiner des acteurs, il doit se coltiner. Là effectivement il y a cette toute puissance, et quant à l'euphorie, je pense qu'il est souhaitable de s'inventer soi-même la joie, de ne pas attendre qu'on vous l'invente. Autrement, vous pouvez attendre longtemps. Et donc, l'écriture, c'est une des manières de jubiler. C'est jubilatoire, la littérature, comme je pense tous les arts. Il y a toujours cette dimension-là. Il y a toujours une sorte de, oui, de joie que l'on s'invente, d'illusion. On s'illusionne. Pendant quelques temps, oui, on se donne le spectacle à soi-même. Voilà, c'est un spectacle qu'on se donne à soi-même. Et oui, moi, je considère l'écriture plutôt du côté de la jubilation et pas de la douleur d'écrire. J'ai beaucoup de mépris pour les gens qui souffrent en écrivant. Je les hais.
Donc, vous ne souffrez jamais.
Déjà, je trouve que c'est peu élégant de parler de sa souffrance à partir du moment où c'est soi-même, on se l'inflige soi-même, on va la chercher soi-même. Il y a une grande prétention. Je trouve qu'il y a une grande prétention parce que finalement, se plaindre ou évoquer sa souffrance à écrire, étant donné que personne ne vous demande d'écrire, je trouve qu'on est dans la fatuité la plus totale. Il y a une sorte, oui, je trouve que c'est fat. Je trouve que c'est souvent des écrivains assez moyens qui disent ça, et surtout des gens qui sont mal élevés, quoi. Comme on dit dans certains milieux, ils ont été nourris, mais ils n'ont pas été élevés.
On l'entend, vous avez une grande tendresse pour les écrivains. Vous écrivez...
Non, tout à fait. Hein. Non, c'est je parlais d'un point particulier, mais en même temps, les écrivains qui sont douloureux dans l'écriture, vous observerez qu'il n'y en a pas beaucoup qui vous racontent ça. C'est assez rare.
Vous avez écrit tout de même.
Je ne vais pas me fâcher avec tout le monde.
Non, surtout pas avec les écrivains. Mais bon, vous l'avez écrit. Les écrivains dégoûtent toujours un peu. Ils empestent la voyelle, la sueur et cette odeur de vanité qui flotte dans les vitrines des librairies. Donc vous avez un certain sentiment de la vanité et de votre propre vanité aussi.
Ah oui, tout à fait. Non, mais vous savez, on est dans un monde très vaniteux. À partir du moment où quelqu'un apparaît, il est d'une vanité absolue. Ne vous leurrez pas. Enfin, je veux dire, déjà, à l'état normal, on est très vaniteux. Hein, ça, c'est sûr. C'est comme ça qu'on arrive à s'accepter et à se supporter. Mais alors, dès que vous voyez quelqu'un pointer son nez dans un média quelconque, vous pouvez être sûr que c'est des monstres de vanité, que c'est un narcissisme total, même si la personne vous dit qu'il est là pour sauver la misère du monde. Vous savez, il y a un texte de Barthes dans les mythologies, je ne suis pas fan de Barthes, mais enfin, en l'occurrence, et Gigi, j'adore Barthes, j'aime tout le monde, vous savez, la culture, tout ça, je respecte beaucoup les maîtres, je suis même prêt à lire bien. Donc oui, Barthes parle de l'abbé Pierre. Il fait une analyse du vêtement de l'abbé Pierre. Et il dit, il n'a pas pu s'habiller comme ça par hasard. C'est-à-dire que c'est un véritable costume de scène. Je ne sais pas si vous voyez comment était fagoté l'abbé Pierre. C'est pas l'épiscopat qui lui a envoyé sa soutane, hein, ça c'est sûr. Moi, ça me fait penser un peu aux vêtements de Gainsbourg quand il a inventé le personnage de Gainsbar. Vous savez, il est allé dans un surplus américain, il a acheté une chemise kaki, il l'a raconté lui-même. Mais vous voyez, quelqu'un comme l'abbé Pierre, il a dû faire à peu près pareil. Exit l'abbé Pierre, mais je veux dire, d'une façon générale, la vanité est partagée par toute personne qui apparaît. Voilà. Je pense que le narcissisme absolu, c'est d'apparaître. Et je pense que ce narcissisme peut être une valeur positive. On est dans une institution laïque, donc je dirais le Christ, c'est quand même le narcissisme absolu, et quand même il donne son corps pour sauver les péchés du monde, c'est extrêmement beau. Mais pour vouloir faire quelque chose pour un autre alors qu'on ne vous le demande pas, c'est quand même un narcissisme absolu. Le sacrifice est lui-même un narcissisme. Donc dans notre monde où les héros sont petits, où les héros sont surtout des gens sur lesquels on met une lumière, en fait, c'est juste... ils sont plus narcissiques que les autres. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, vous parliez de l'écrivain qui était narcissique. Oui, ça me paraît évident. Mais ceux qui interviewent les écrivains aussi.
Sûrement moins. Mais dans Asile de fous, vous poussez assez loin cette idée de la vanité, parce que vous vous demandez même si les écrivains ne devraient pas cesser de signer leurs livres.
Oui, ça c'est un grand fantasme d'être complètement anonyme. Oui, de donner ses livres, que ses livres n'aient pas de nom. C'est un fantasme que j'ai, mais en même temps, si vous voulez, pour que la vanité soit satisfaite dans ce cas-là, il faut vraiment que vous tombiez sur un succès extraordinaire, parce que si en plus il n'y a pas votre nom et que personne n'en parle, vous voyez, c'est toujours ces actions qui ont l'air empreintes de modestie qui sont les plus vaniteuses. Et cette volonté qu'on peut montrer de disparaître, en fait, c'est la vanité. Pour moi, c'est la vanité suprême. Mais la vanité, c'est pas très grave parce que c'est l'espèce humaine. C'est un peu comme la jalousie, l'égoïsme ou l'amour.
Est-ce que vous souhaitez peut-être lire un passage de Tiber et Marjorie, qui est donc le dernier roman qui va paraître dans quelques jours, je crois?
Oui, ça va paraître jeudi. Non, j'avais prévu de lire le début et la fin. Et puis, je ne sais pas, je me dis peut-être on pourrait lire autre chose. Un truc un peu pour amuser un peu la galerie, quoi. Non, mais c'est vrai, j'adore amuser la galerie.
Et c'est vrai que c'est un roman très drôle.
Ben oui, c'est
assez,
ça.
Assez burlesque. Enfin...
Parce qu'il y a des trucs sur le sexe qui sont rigolotes. Attendez, je ne sais plus où je les ai trouvés.
Bon, sur le sexe, il faut dire que le sexe est quand même assez triste dans ce livre.
Je vais chercher.
Oui.
Non, c'est dommage. Hein, ça nous aurait amusé, moi ça m'aurait amusé, je trouve pas pourtant. Non. Ah oui, on va lire un passage. C'est moi ça?
Ah, c'est vous.
Désolé, c'est vraiment plou.
Ça arrive à tout le monde.
Ouais, je réponds pas. Donc, je vais vous lire ce que j'avais dit. Hein. Ça sera moins drôle, évidemment. Mais... Ce sera plus littéraire. Hein. Le soleil ne s'était pas montré ce jour-là. Le soir tombé, la pluie faisait du bruit sur la tente du Père Tranquille, Café des Halles, un quartier de Paris, vieille ville européenne que certains habitants du sud des États-Unis confondent parfois avec Paris-Texas. Quand il est arrivé, elle a rompu. Je veux faire un break. Elle tenait une tasse dans sa main. Le thé ne reflétait rien, même pas le rouge des convecteurs qui chauffaient la terrasse. « Il faut que tu disparaisses. » Elle laissait tomber son regard. Elle avait peur de ses yeux d'homme grands ouverts, des pupilles comme deux points noirs dans des iris presque beiges. « Tu comprends ? Je n'y comprends rien. Je ne t'aime plus et puis en même temps, je t'aime trop. Depuis quand ? Je ne me souviens pas. » Il a soufflé. Il l'aurait dispersée volontiers si elle avait été une poignée de plumes. Le serveur lui a demandé de garer son sac de voyage qui encombrait l'allée. « Vous voulez boire quelque chose ?»« Non. » Le sac n'a pas bougé. En s'éloignant, le serveur lui a donné un coup de pied. Et elle a commencé à pleurer. Sa cigarette a grésillé d'avoir été atteinte par une larme. « Va-t'en. Moi, je t'aime trop pour te quitter. Quand on aime trop, c'est comme une cuite. On ne tient plus debout. On ne peut même pas s'enfuir. » Leur histoire rampait depuis plusieurs mois. Un serpent gris qui les suivait quand ils montaient l'escalier. Ils n'avaient pas le temps de claquer la porte, ils se coulaient dans l'appartement. Ils le voyaient se dérouler dans l'évier quand ils dînaient à la cuisine. Dans la chambre, ils leur tiraient la langue au moment où ils s'apprêtaient à ne pas faire l'amour. Au salon, ils s'enroulaient autour de l'écran de la télé. Ils barraient l'image, coupant une actrice, un chanteur dont il étouffait la voix qui semblait soudain prisonnière d'une boîte capitonnée. Ils tournaient la tête l'un vers l'autre, ils savaient. Ils voyaient qu'il n'y aurait bientôt plus de rails, qu'ils se fracasseraient dans le tunnel dont ils apercevaient au loin l'orée ocre comme un désert. Elle avait préféré sauter en marche. « Tu as sauté ?» Elle ne l'a pas entendu et d'ailleurs il n'avait rien dit. Elle essayait de remonter le temps. « Tu te souviens de l'aéroport ?» Pour une veille du week-end, il n'y avait personne. Il avait passé 4 jours à Chicago dans la tiédeur d'une salle de conférence de l'hôtel Sheraton. L'avion avait atterri à 16h30. Elle l'avait appelé pour qu'il vienne le retrouver dans ce café. Ils auraient pu pourtant se rencontrer boulevard Raspail, où ils vivaient ensemble depuis 125 mois. Tu te souviens de Roissy quand on est partis ensemble pour la première fois ? Il n'avait pas envie de laisser sa mémoire remonter jusqu'à l'apogée de leur amour qu'ils avaient atteint dès le premier jour. Il n'avait fait ensuite que perdre de l'altitude. Quand Karl Lagerfeld nous a pris en photo comme un paparazzi avant de filer dans le salon des premières classes, il ne voulait pas se remémorer le bonheur. La plaie ouverte, il ne voulait pas la recouvrir de sel. Elle n'aurait pas pour autant fondu comme de la neige. C'était bien l'océan Indien. On va rentrer. Je préfère que tu ne viennes plus jamais à la maison. Il n'était pas vraiment pingre, mais il a sursauté quand même. L'appartement est à moi. Je voudrais le garder en souvenir. On déposait l'amour au fond d'un shaker. On lui rajoutait une dose d'immobilier, une rasade d'électroménager, un compte joint en guise de cerise confite, et on le noyait dans un quotidien sirupeux, parfois doux comme la grenadine et parfois âcre, amer, ce qui est tout de même étrange pour un sirop. En guise de glaçon, on pouvait aussi jeter dans le cocktail 2 ou 3 enfants. Filles ou garçons, de nos jours, les parents ne sont pas sexistes. Les deux protagonistes, comme des cuillères enfoncées jusqu'au cou, qui touillent désespérément par peur de l'immobilité, du silence, du calme plat qui ferait du shaker un puits. Il faudra quand même que je passe prendre mes affaires. Je préférerais que non. Après 10 heures de vol, j'aimerais bien me changer. Elle a hésité, mais elle ne lui a pas caressé la joue. Tu es vraiment coquet. Elle avait arrêté de pleurer, la pluie avait cessé, elle s'est mise à sourire. Un beau sourire, un petit cadeau de rupture qui valait bien un bouquet. D'ailleurs, il ne faut rien exagérer, une rupture n'est pas un enterrement. Il s'est levé. Où tu vas ? Il regrettait de n'être pas violent autrement. Il aurait soulevé à deux mains le guéridon de fer forgé. Il l'aurait pilé avec jusqu'à obtenir une sorte de pâte taiseuse dont ne se serait plus échappé le moindre mot. Je rentre boulevard Raspail. Il a pris son sac. Il est parti. Voilà, mais il y a des passages où on aurait pu se rigoler, mais je ne sais pas.
Mais on le voit dans ce passage-là, c'est vrai qu'il annonce une tragédie, ce que ne sera pas forcément le livre, mais on voit à quel point c'est la femme qui est le mystère du livre. Comme souvent dans vos livres, on est face à un mystère qui ne sera pas forcément résolu, d'une femme qui agit en amour sans vraiment d'explication.
Oui, il n'y a pas d'explication parce que je pense que ce personnage aussi est un peu déboussolé par le fait que, justement, on ne voit pas du tout quelle fonction sociale elle a. C'est-à-dire qu'elle est mère, mais elle ne veut même pas abandonner complètement son enfant parce que ce serait une façon d'être une mère qui abandonne, donc ce serait une façon d'être mère. Et donc, il y a une sorte de refus complet de l'immobilisme. Je dirais. C'est un personnage essentiellement en mouvement. Et la réflexion, ça ne vient guère que quand on est immobile. C'est-à-dire que tant qu'on bouge, on ne sait pas qui on est parce qu'on est dépendant de son mouvement et de ce qui se passera dans le mouvement. Et donc, elle est d'autant plus... oui, mais en même temps, moi, c'est peut-être une vision que j'ai de la femme dans le roman. C'est-à-dire, il y a une sorte de... peut-être la compensation de l'homme qui ne comprend pas forcément la femme, enfin qui comprend rien, quoi, et qui en fait arrive à s'en sortir en se disant je n'y comprends rien parce que finalement, non pas il n'y a rien à comprendre, mais c'est tellement une pléiade, c'est tellement un ciel d'étoiles qu'on n'arrive pas à le synthétiser parce qu'on n'arrive pas à compter les étoiles, donc on n'arrive pas à compter les femmes dans la femme. C'est un sentiment, c'est une sorte de fuite devant le réel. Cette façon de dire, je ne peux pas le résoudre parce que ça n'est pas soluble. Et ce qui fait que souvent, effectivement, dans mes livres, les femmes de mes livres sont complètement folles, quoi.
Oui, même pire que ça, parfois dans Clémence Picot, par exemple, on va très loin dans la folie féminine.
Oui, on va très loin dans la folie féminine parce que je pense aussi que la folie féminine, qui n'est guère que la continuation du rationnel, hein, comme chez l'homme, me fascine d'autant plus qu'elle est différente de la folie des hommes. C'est très différent parce que on part d'une personne qui est différente d'une autre qui n'a pas le même sexe, et donc forcément les excès seront d'une nature différente. Et je trouve que la femme est beaucoup plus spectaculaire que l'homme. Je trouve que dans notre société, le spectacle nous est donné par les femmes, c'est-à-dire que ce qui est inattendu, ça vient plutôt des femmes. Tout ce qui est mode, mais je ne parle pas de la mode vestimentaire, mais de la mode de pensée, vient plutôt du côté féminin. On a du côté féminin qui surprend d'autant plus qu'on se fait une idée des valeurs féminines qui n'existent pas. C'est-à-dire, vous observerez que c'est très curieux, mais on est dans une société très arriérée en France, hein, il faut le savoir, sur le plan des femmes. Et vous voyez, quand par exemple il a été question d'avoir une présidente de la République, il y a eu des gens qui ont eu l'imbécilité notoire, et c'était des gens qui étaient très haut placés dans la politique, pour dire oui, elle va apporter des qualités féminines, vous savez, dans l'exercice du pouvoir. Alors moi, je vous conseille de vous faire opérer par une femme chirurgien qui apportera des qualités féminines. Je ne sais pas, ça veut dire quoi, faire des broderies sur la horte, etc., etc. C'est d'une sottise totale. Vous voyez, et je ne vois pas du tout où je voulais en venir, mais sauf pour dire une phrase complètement ridicule d'un grand poète français et qui fait agenouiller tout le monde. La femme est l'avenir de l'homme. Si on a dit une pareille sottise, c'est complètement imbécile. Cette espèce de façon de s'agenouiller devant la femme, c'est la preuve qu'on aime pas les femmes, qu'on n'aime pas les femmes, je ne parle pas de préférence sexuelle, mais qu'on les aime pas vraiment. C'est une façon de les mettre à part. Vous voyez ce que je veux dire? On les met à part, on dit c'est l'avenir de l'homme, oui, c'est-à-dire que c'est pas le présent, quoi. Parce que si c'est l'avenir, c'est pas maintenant, quoi. C'est-à-dire, c'est bon, d'accord, oui, c'est l'avenir, la mort aussi, c'est l'avenir de l'homme, ok. L'enfer aussi, allez-y, oui, c'est ça, d'accord. Vous voyez, la ruine totale, c'est l'avenir de n'importe quoi. C'est une façon vraiment de jeter les choses aux orties. C'est-à-dire que, en réalité, je pense quand même qu'il y a un côté, alors là, c'est une parole d'homme, mais que la femme est plus dans le présent. Je suis désolé, hein, parce que là, ça va paraître extrêmement misogyne, ça ne l'est pas. Vous savez que la conception, la personne qui a dû inventer le temps, c'est quand même une femme. C'est la seule qui a une conscience du cycle. Je veux dire, c'est l'homme n'a pas d'horloge. Il n'y a pas quelque chose qui revient chez l'homme périodiquement au même moment. C'est à partir de là, quand on a une horloge visible et que l'on ressent, qu'on peut avoir une conception du temps. Donc moi, je pense qu'il y a quand même cette espèce de réalité qui est peut-être un côté plus féminin, finalement. Mais là, je suis en train de dire les mêmes imbécilités que j'ai dénoncées au début de ce que j'ai dit. Je suis désolé.
Pour Thibert et Marjorie, vous avez dit que vous l'aviez... que finalement, ça s'était construit comme un boléro, c'est-à-dire que petit à petit, les personnages arrivent. Est-ce que pour vous, la littérature est au départ toujours une question de forme?
C'est-à-dire, Il n'y a pas de littérature sans forme ou d'art sans forme, et c'est à la fin de la journée, c'est ce qu'on retiendra. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont on a quelque conscience que ce soit quand on écrit ou quand on peint, mais finalement, ce qui reste et ce qui fait l'histoire de la littérature, de la peinture, de la musique, c'est seulement une évolution de la forme. C'est pas une évolution du contenu. Picasso, les Demoiselles d'Avignon, il y avait Belle Lurette qui ont peigné des scènes de bordel. Guernica, il y avait des scènes de guerre depuis longtemps. Les nus, on en a toujours fait. C'est une évolution de la forme. L'histoire de l'art, c'est de toutes les façons à chaque fois un cataclysme sur le plan formel. Donc en littérature aussi, ça a toujours été quelque chose qui, il y a eu un écart total à un moment entre un écrivain et un autre. Et donc la forme, non seulement c'est quelque chose qui est extérieur de nous, comme un peu comme la peau qui nous détermine, mais c'est pas quelque chose que l'on ressent intérieurement. C'est quelque chose que l'on peut voir dans la réflexion du miroir, mais dans la réflexion intérieure aussi. Et la forme, pour un livre, on ne peut, enfin, à mon point de vue, je ne peux l'avoir qu'après coup, dans le miroir de la lecture ou de la relecture. Parce que moi, je relis pas mes livres, mais je les relis avant publication. Donc, on arrive à voir une évolution dans la forme. Mais la forme est généreuse, c'est-à-dire que c'est extrêmement dur. La langue française est très dure à mener. C'est une langue qui a peu de mots, qui a une grammaire extrêmement dictatoriale. Mais en même temps, cette rigueur même vous donne quelque chose. Et cette évolution de la forme, ça vous apporte quelque chose d'intérieur, d'extrêmement profond. C'est-à-dire qu'une forme nouvelle, entre guillemets, ne peut pas apparaître sans qu'il y ait une grande profondeur derrière. Il n'y a pas de... Alors, je ne parle pas pour moi, mais il n'y a pas d'artiste qui ait pu révolutionner l'histoire de l'art, de la musique ou de la littérature qui n'ait pas été profond jusqu'à l'abîme. Ça n'existe pas. Je parlais de Proust, on peut dire qu'il a révolutionné la forme. C'est un cataclysme, Proust, sur le plan de la forme. Et il y a évidemment une profondeur extraordinaire. On parlait de Kafka, c'était pareil. Donc, tout... On est dans la discussion millénaire, la forme et le fond, hein, c'est pas la question. Mais je pense que la forme vous donne quelque chose. C'est-à-dire que cette rigueur qui importe, la forme, c'est une sorte d'honnêteté, vous savez. Je pense que quand on est dans l'honnêteté et dans la sincérité, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que... alors là, peut-être que je parle de moi, mais c'est pas là, je parle comme si j'étais pas écrivain. Hein, je veux dire que les mauvais écrivains, c'était des malhonnêtes, simplement. Parce que c'était des gens qui, à un moment, avaient failli. C'est-à-dire que c'était des gens qui, à un moment, avaient mimé. C'était des gens qui avaient emprunté. C'était des gens qui n'avaient pas eu le courage d'assumer. Il y a une question, je pense, qui est... c'est un sentiment assez... primaire, mais je pense que le courage est extrêmement important dans l'écriture ou dans l'art. C'est-à-dire, est-ce que l'on va éviter l'obstacle ? C'est très facile d'éviter l'obstacle. Moi, je peux, surtout avec quelques années au compteur, on peut très bien écrire des livres en évitant l'obstacle. Est-ce qu'à un moment, on ne doit pas, à chaque livre, se prendre le mur ? Est-ce que on doit avoir peur du mur ? Ou est-ce qu'on va accepter de le prendre ? Est-ce qu'on va accepter de repartir finalement à chaque fois les mains vides ? Est-ce que finalement la moindre des choses pour un écrivain, c'est à chaque fois de repartir complètement dans l'oubli de ce qu'il a écrit, dans le mépris total de ce qu'il a écrit, d'écrire comme si c'était la première fois, quoi. C'est-à-dire de ne pas reproduire une chose. Je ne sais pas ce qu'on racontait là.
Non, mais il y a toujours cette idée...
Moi, je cherche un passage drôle, pour l'instant, je ne perds pas mon temps.
Vous avez toujours cette idée de refuser la figure de l'écrivain comme artisan. Ça, c'est quelque chose qui vous est insupportable.
Ben, c'est pas tellement que ça m'est insupportable, c'est que c'est faux. L'art n'est pas un artisanat. Ça me paraît évident. L'artisanat, c'est la reproduction. C'est reproduire quelque chose. Toute l'admiration qu'on peut avoir, je sais pas moi, pour Monsieur Weston, par exemple. Monsieur Weston. Ben, Monsieur Weston, il reproduit quand même la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait des chaussures. Donc c'est un peu la oui, ça serait plus sympathique de dire que c'est un artisanat. Vous savez, de dire ah, j'ai mes outils, le crayon, la gomme, etc. Mais c'est faux. C'est-à-dire que les outils n'ont aucune importance dans l'écriture, par exemple. Je ne parle pas de la peinture, je parle de l'écriture, ce que je connais un peu. Or, en ce qui concerne l'artisanat, c'est fondamental. Il n'y a pas d'artisanat sans outillage. Donc là, déjà, on n'est pas dans la même chose. Et puis l'artisanat, on sait ce qu'on a fait et on sait ce qu'on va faire. Il n'y a pas de suspense. Alors après... Après, on vous dira qu'il y a des artisans où c'est une œuvre d'art. Donc là, c'est tout à fait possible. Et puis, il y a des écrivains qui sont des artisans, surtout. C'est un peu reversible. Mais voilà l'idée que j'ai un peu de la chose. Parce que finalement, écrire, comme je m'en fais une idée, c'est accepter cette grande liberté qui fait qu'on est plus libre aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre... de ne plus être libre. C'est-à-dire, on n'est pas libre d'être en repos. On n'est pas libre d'être académique. C'est-à-dire, on n'est pas libre à un moment de dire, voilà, j'ai parcouru un chemin et maintenant le chemin est tracé et j'aurai peut-être à travailler, mais ce sera en dehors de l'angoisse et des questions que je pourrais me poser. Je sais où je vais. Ça, je crois que c'est complètement étranger à l'art. C'est ça qui fait que c'est toujours intéressant de voir de fréquenter des artistes, même très âgés, parce qu'ils ont toujours ce côté d'être sur le qui-vive. Et ils ont vieilli, hein, c'est pas le problème, mais c'est comme ils sont comme des adolescents d'être sur le qui-vive, de pas savoir ce qui sera demain, ce qui sera fait, ils ont pas ce côté, vous savez, ce côté de dire, vous voyez, comme vous avez des discussions, alors les gens à partir de 45 ans, ils vous parlent de leur retraite, etc. Vous dites, j'ai acheté un studio, et puis alors je le loue, et puis, etc., etc. Ce côté, l'avenir est tracé, c'est pas un malheur, mais c'est que l'avenir est confortable. Et chez les artistes, quels qu'ils soient, on trouve ce côté inquiet, ce côté animal. Vous savez, les animaux, ils sont jamais tranquilles. Ils sont toujours en train de scruter, ou alors ils dorment, ou alors ils sont jamais tranquilles. Et donc, il y a cette espèce de... Oui, j'allais dire intranquillité, mais Pessoa n'en parlait pas, je pense, dans ce sens-là. Oui, de façon d'être toujours en panique. Voilà, d'être toujours aux aguets en panique. C'est-à-dire de ne pas savoir du tout qu'est-ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que moi, quand je commence un livre et quand je continue, je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver parce que j'essaie d'accepter les imprévus comme des chances. Voilà. Et dans ce livre, ça a été le cas aussi, quoi. C'est-à-dire là, je suis un peu revenu à mes sources, à moi, mes sources d'écriture. C'est-à-dire, c'était l'espèce de liberté totale qu'on a quand on est adolescent et qu'on se met à écrire sans avoir de modèle, particulier, parce que déjà, on n'en a pas la culture, enfin, c'était mon cas. Et cette espèce de liberté totale et que j'ai retrouvée là, mais qu'avec le temps, je peux maîtriser suffisamment pour qu'elle puisse, à mon sens, être littérature. Et donc là, j'ai accepté cette chose-là. J'ai accepté, vous savez, il y a quelque chose qui est très peu accepté, c'est la désinvolture, une sorte d'apparence de désinvolture, l'apparence, vous savez, un peu comme Vivaldi, on admirera toujours plus Wagner que Vivaldi, quoi, voilà. Et là, j'ai accepté de jouer parfois, d'essayer de ne pas en rajouter, quoi. Vous savez, cette espèce de refus de la... de refus de la tragédie, de cette élégance dont je parlais tout à l'heure, non pas pour m'emparer, mais pour la mettre comme un peu une sorte d'idéal. Et oui, cette façon de souffrir sans en avoir l'air, quoi. Vous savez, ce côté un peu mondain de la souffrance, comme Swann dans... Je sais pas pourquoi, j'ai déjà parlé de Swann il y a quelques jours, je sais pas pourquoi. Swann en Proust qui dit à Madame de Guermantes, qui lui dit dans 6 mois nous irons à Cabourg, et puis Charles Swann lui dit non, moi j'irai pas à Cabourg parce que dans 6 mois je serai mort. Et elle lui dit ah, mais non, on va arranger ça, venez dîner lundi, enfin comme si ça s'arrangeait comme ça. Il y a cette sorte de désinvolture, dans 6 mois je serai mort, etc. Et les personnages finalement ils sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont ce côté un peu adolescent. On a, comme il n'est pas en vente, vous n'allez rien comprendre, mais c'est pas grave. Et vous l'avez pas lu. Mais il y a un personnage de ministre, bon, qui a 70 ans et qui retrouve une sorte d'adolescence, un peu fat. Il est un peu fat, comme un adolescent peut l'être. Une croyance dans tout ce qui peut être possible, en une sorte de régénérescence continue, continuelle, éternelle. Voilà, et c'est ça, moi, à chaque fois que j'écris un livre, je me paye en même temps une sorte de luxe. J'ai toujours l'impression que je me paye le luxe d'écrire un livre parce que je l'écris à la fois sans préméditation, mais surtout... Je sais pas, quand j'écris, je sais pas de plaire. Après, oui, après, je fais le cabotin à Beaubourg, par exemple. Mais, vous savez, après, oui. Mais quand j'écris, je m'accorde encore cette liberté totale, alors que c'est mon métier et c'est mon seul métier, donc, actuellement. Mais de me donner une liberté absolue, comme si j'étais, vous savez... un dilettante, vous savez, ce côté dilettante, ce côté de gens extrêmement riches qui ont des activités, voilà, qui collectionnent les tabatières et qui font rigoureusement ce qu'ils veulent et qui n'ont de compte à rendre à personne. Mais moi, quand j'écris, j'arrive à préserver ça, c'est-à-dire à essayer de ne pas écrire pour donner une image, pour, vous savez, sculpter son image, l'image. Non, moi, j'ai la liberté de les casser, quoi, comme on casse ses jouets. J'ai le sentiment d'avoir réussi, de réussir encore et de réussir même plus qu'avant à conserver cette liberté totale dans l'écriture.
Je vais peut-être céder la parole à ceux qui auraient des questions pour Régis Geoffrey dans la salle. Je vois que déjà tout là-bas.
Bonjour. Je suis venue à Beaubourg pour vous découvrir. Bon, je m'intéresse à la littérature, mais je n'ai pas lu vos livres, je préfère vous le dire. Alors, d'abord, je me permets de faire une remarque à propos de ce que vous avez dit sur Aragon. Enfin, je pense que vous avez été un peu injuste et partial, parce qu'effectivement, il a dit « la femme est l'avenir de l'homme », mais je pense qu'il faut replacer quand même cette citation dans son contexte social de l'époque, et qu'à l'époque, la femme n'a pas encore... Enfin, elle est dans un processus d'émancipation. Je ne sais pas si elle l'a atteint, mais en tout cas, je ne vais pas dire qu'elle l'a conquis, mais elle est dans un processus d'émancipation. Et donc, je pense que ce que Aragon veut dire, c'est que plus tard, il faudra compter avec, mais pas nécessairement dans sa différence. C'est-à-dire, la femme, c'est un homme comme un autre. Voilà, donc je voulais quand même...
Vous avez sûrement raison. Hein, moi, c'est la phrase qui m'est venue. C'était Jean Ferrat qui l'a chanté. Et c'est un souvenir de fac à Aix-en-Provence où il y avait... un syndicat qui s'appelait l'UNEF, donc c'était des communistes, et ils nous gonflaient toute la journée avec Jean Ferrat. Donc j'ai conçu un dégoût de Jean Ferrat qui est très injuste, et donc d'Aragon qui est extrêmement injuste, parce que par ailleurs, j'aime beaucoup Aragon, ça n'a rien à voir, qui est un grand écrivain du XXe siècle. Mais vous voyez, ça vient de là. Ça vient de cette origine. Je vous assure, c'est terrible. Hein, parce qu'on aurait dit qu'il n'y avait qu'une musique au monde. Ah, c'était terrible, c'était terrible. Et puis le truc sur Cuba aussi, cette espèce de façon de louer une dictature, enfin tout ça. Et c'est à cause de ça, et vous avez raison de l'avoir replacé dans son contexte. Merci.
Alors, ma question, elle est un peu plus... Enfin, bon, vous avez décrit Thibert et Marjorie donc comme un processus, là aussi, de passion qui a atteint son apogée et puis finalement qui retombe ensuite. Et vous avez dit, donc, ça monte et puis ensuite, ça se sculpte. Et c'est quand ça se sculpte que, finalement, l'amour disparaît. Alors, pourquoi vous avez dit ça se sculpte et pas ça se construit? Voilà, c'est ça ma question. Pourquoi avez-vous choisi ça se sculpte plutôt que... est-ce que ça veut dire pour vous ça se construit?
C'est-à-dire que j'ai dû avoir un problème d'élocution. C'était ça se sculpte. Se sculpte. Quand on ausculte. Et quand se sculpte, je ne sais pas vous répondre, je n'avais pas pensé à se sculpte. Je suis désolé de ne pas avoir articulé mieux.
Soir. Alors moi j'avais deux petites questions. Ça revient de manière lancinante, Proust, Proust, Proust. Toujours cette obsession sur le temps. Et j'ai jamais lu rien de votre part qui parle de Céline, qui est quand même peut-être le deuxième. Le troisième, parler, c'est peut-être Morand, mais bon. Et si vous pouviez me parler un petit peu de Céline aussi, qui est quand même qui a lui bouleversé aussi le style hein, dans ses fondements. Et ma deuxième question, elle est un petit peu plus généraliste. Vous parlez souvent de Houellebecq et je m'interroge sur les écrivains de votre génération, cinquantaine, vous les faites, hein, de très très loin.
Excusez-moi.
Votre génération, la cinquantaine, oui vous les faites, mais stylistiquement parlant, je ne parle pas physiquement. Ouais. C'est-à-dire, on est dans une critique.
Vous avez quel âge, vous?
Moi, j'ai 20 ans de moins que vous.
Ben, c'est bien, je vous félicite.
Merci, mais un jour...
Mais vous savez, vous n'êtes pas sûr d'avoir un jour mon âge, alors que moi, j'ai eu le vôtre. Hein.
Mais ouais,
je ne veux pas être pessimiste.
Non, mais... mais j'espère avoir votre fraîcheur d'esprit à 55 ans. Là, je m'interrogeais sur le style. C'est-à-dire que les écrivains comme vous, qui ont la cinquantaine, ils ont une écriture très minimaliste. C'est-à-dire que, là encore, c'est mon obsession à moi, c'est Céline. Je ne vois pas de flamboyance dans le style. C'est quelque chose de très chirurgical. Toujours ce poids des mots posé jusqu'à la ponctuation. Donc vous pouviez aussi me parler, ce n'était pas une attaque du tout, vous pouviez me parler aussi de cette écriture que je trouve très, très représentative d'une génération comme Houellebecq et comme d'autres.
Jeune homme, puisque vous croyez être jeune à 35 ans, alors que franchement, moi quand j'avais 35 ans, je ne me trouvais pas très jeune. Minimaliste, my ass. My ass. Tu as lu un livre de moi, jeune homme? Oui, parce que minimaliste, alors là, mon vieux, alors tu repasseras. Hein. Vraiment, alors là, non, ça, alors là, il faudra repasser pour minimaliste. Hein. Moi, je veux bien parler en disant que je suis minimaliste, mais je vois pas du tout en quoi je suis minimaliste. Hein. Je veux dire, minimaliste, c'est un truc très particulier. C'est venu, c'est un mot qui est arrivé avec La Salle de Bain, le livre de Jean-Philippe Toussaint. On voit très bien ce que c'est. C'est une phrase extrêmement sèche, extrêmement courte et extrêmement descriptive que j'ai pas du tout. Donc je vois pas. Alors parler de Céline, oui, je peux en parler. On peut parler de Stendhal aussi. Il y a aucun problème. Oui, j'ai lu Céline. Je peux faire une conférence qui sera assez moyenne sur Céline. Oui. De parler de Proust et pas de Céline, c'est peut-être que le retentissement de l'œuvre de Proust est beaucoup plus grand. En France, c'est dans le monde. C'est peut-être pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un retentissement chez pratiquement tous les écrivains, même d'Amérique du Sud, ont pris ce cataclysme Proust un peu comme on a pris le cataclysme Joyce. Je ne sais pas s'il en est de même pour Céline. Moi, Céline, c'est un écrivain que j'ai lu presque, je peux dire, tout entier, avec une grande passion quand j'étais jeune, plus jeune que vous d'ailleurs. Et je l'ai lu avec une grande passion. Le problème, c'est que les écrivains, ce n'est pas qu'on les relit, c'est ce qui vous reste. Et moi, il me reste, en tout cas, de Céline, quelque chose de merveilleux. C'est justement ce côté... Alors, peut-être que je partage un peu avec lui, c'est ce côté burlesque et drôle. Voilà. Et il y a un truc qui me gêne dans Céline, en y revenant. Et là, j'ai quand même lu, j'ai relu un peu de 200 pages de Mort à crédit. Ce qui me gêne, c'est cette espèce de teinte, moi qui me frappe maintenant, d'aigreur complète chez Céline. Et je trouve que c'est, en tout cas, dans ce livre-là, dans Mort à crédit, moi j'ai éprouvé une sorte de malaise, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un grand livre, et peut-être même que ce malaise est quelque chose d'extraordinaire, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais cette espèce de tête de Céline âgée que je voyais chez le gamin, chez le petit gamin. C'est-à-dire un petit gamin de 2 ans qui était déjà, qui avait déjà, j'allais dire, fait l'exode comme elle avait fait, comme l'avait fait Céline, qui était, c'est ça qui m'avait frappé. Mais Céline, c'est un grand écrivain, oui, je suis d'accord avec vous, et on pourrait le citer plus souvent. Malheureusement, il est souvent cité par des gens qui le citent de façon délicieuse à cause des pamphlets que, bon, on va voir, j'ai pas lu, mais à part ça, je suis d'accord avec vous, c'est un grand écrivain.
Oui, bonjour. Je n'ai lu de vous que microfiction. Et alors, j'ai un premier problème, c'est que je trouve ça extraordinaire, que je vais avoir du mal à lire d'autres livres de vous. Et deuxièmement, ça m'a fait penser quand même à deux autres écrivains, justement, sur les histoires de forme. C'est Félix Fénéon, Les Nouvelles en 3 lignes. Alors, justement, en 3 lignes. Après, il pourrait y avoir Thomas Bernhardt dans L'Imitateur, là, les nouvelles qui font une page, une petite page, et puis vous. Et alors, je veux savoir comment on tombe justement sur une forme comme ça. Bon, la microfiction, c'est quand même, c'est presque comme une contrainte de l'Oulipo, presque. Il y a vraiment un modèle et un schéma qui se répète. Est-ce que vous en avez écrit plusieurs et puis vous êtes tombé là-dessus, vous avez continué, ou est-ce que vous aviez une volonté avant, ou comment on tombe sur 500 histoires comme ça du même format?
Ben là, c'est la dernière hypothèse que vous donnez. Oui, ben j'en ai écrit plusieurs et après j'ai continué. Et le fait qu'il y en ait 500, moi j'aime bien me fixer des buts parce que ça permet non seulement de les atteindre éventuellement, mais de ne pas les dépasser. Parce que c'était important de mettre une limite. Parce que si vous voulez, microfiction, je pourrais être encore en train de l'écrire. J'ai toujours une réticence à me perdre dans un seul livre et à me dire je vais passer le reste de ma vie à écrire le même livre, alors qu'avec microfiction, c'était possible. Comme un autre livre que vous n'avez pas lu, mais Univers aussi, à un moment. Ah ben voilà, Univers, à un moment, je pouvais ne jamais l'arrêter. Voilà. Et donc c'était arbitraire de le terminer. Et microfiction, le fait de m'être fixé 500 histoires, c'était une limite, voilà. Et c'est quelque chose qui est venu relativement naturellement, effectivement, après en avoir écrit 2 ou 3. Excusez-moi, j'ai pas entendu.
Vous n'avez pas lu ?
Je n'ai pas lu.
Ah, c'est très, très bien, il a écrit des petites nouvelles, des faits divers en 3 lignes. C'était sa contrainte. Et c'est aussi les histoires d'assassinats, c'est vraiment les faits divers de journaux. Et c'est un peu comme si vous en aviez pris une et vous l'aviez tirée et vous aviez vu tout ce qui se passait à l'intérieur, justement. Mais ça, c'est assez. Ça me fait vraiment penser à ça, quoi.
Oui, vous savez, c'est pas microfiction, c'est pas quelque chose de très original, hein, au niveau de la forme, parce que c'est pas moi qui ai inventé le nom, c'est microfiction aux États-Unis, mais j'ai inventé tout seul, puis après je me suis aperçu que c'était déjà inventé, c'était très décevant. Mais je veux dire, c'est pas une forme dont je suis spécialement l'auteur, quoi. Je veux dire, c'est une forme qui, à mon avis, est plus naturelle, comme je parlais tout à l'heure du roman, que le roman, parce que justement elle est brève et où on a tendance à raconter l'histoire. En même temps, c'est pas vraiment le cas parce que c'est une sorte de roman qui se développe. Pour répondre à votre question, voilà, ça s'est fait un peu par hasard, voilà, au départ.
Encore une question ?
Je suis trempé, moi. J'aurais pas dû m'énerver, hein, je suis désolé. Vous savez, les gens, à partir de 50 ans, ils en ont ras-le-bol. Parce que vous savez, vous verrez, quand vous avez 50 ans, vous irez chez le médecin. Alors, jusqu'à 50 ans, ils vous foutent la paix. Mais alors, ils n'arrêtent pas de vous parler de votre prostate. Ça, c'est extrêmement exaspérant. Vous voyez ? Alors, vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'avez aucun problème, et on vous parle. Et donc, les histoires d'âge, c'est exaspérant. Vous savez, moi, j'ai aucune envie d'avoir votre âge, hein, parce que je l'ai déjà eu, ce n'était pas tellement extraordinaire. Hein. Mais c'est le côté, vous voyez, vous verrez, quand vous aurez 55 ans, vous aurez un pauvre con. Pardon, ce n'est pas pour vous, mais je veux dire, quelqu'un. Non, je suis désolé, je demande excuse pour ça. Vous aurez quelqu'un. Non, mais je ne voulais pas dire un jeune con, parce qu'il y a le vieux con, les jeunes cons, c'était juste dans cet ordre-là, qui viendra vous dire oui, les écrivains de votre âge. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup de solidarité avec les gens de 35 ans. Moi, je n'ai aucune solidarité avec les écrivains de 55 ans. D'abord, je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les grands écrivains à 55 ans, ils étaient déjà morts. Vous voyez, Balzac, il était mort. Kafka, il était mort depuis longtemps. D'ailleurs, si vous faites l'âge de Kafka, vous n'en avez plus pour très longtemps. Hein. Mais je veux dire, tous les grands écrivains étaient morts. Donc, moi, cette espèce... Excusez-moi, il y a Victor Hugo, oui, c'est vrai. On peut toujours se consoler. Et puis, comme disait Céline, justement, quand il était âgé, quand il était plus âgé et qu'il écrivait ses derniers livres, il disait, oui, on vous dit, oui, vous allez encore écrire quelque chose, la preuve Cervantes. Donc, il disait, mais enfin, Cervantes, bon, etc. Donc, c'est vrai, mais je vous assure, franchement, moi, j'en ai ras-le-bol d'avoir 55 ans. Mais alors, en plus, si vous croyez que ça vous fait plaisir d'avoir 35 ans, vous préférez en avoir 18, hein, je vais vous dire. Avoir 35 ans, c'est déjà un échec. Mais je veux dire, ce que je veux dire, si en plus vous voulez que je sois solidaire avec les écrivains de 55 ans, mais enfin, vous habitez, vous croyez que je fréquente des écrivains de 55 ans, que je suis là à dire, ah voilà, non, ça m'intéresse pas du tout. Je veux dire, les écrivains de 55 ans m'intéressent pas du tout, vous savez. Non, mais je sais pas où vous avez vu qu'il y avait une concordance entre les écrivains de 35 ans en France. Expliquez-moi, Houellebecq, d'accord, bon, alors il y aurait Houellebecq et moi, on se ressemblerait, physiquement c'est pas évident, bon, au niveau des livres, je sais rien, mais après qui d'autre? Oui, je vous en prie. Oui. Oui. Ah oui, d'accord. Mais je m'étais mal expliqué. Alors, non, mais je vais m'expliquer. Non, je m'étais mal expliqué. Ou alors, peut-être que vous avez lu rapidement. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que quand est sorti le livre de Houellebecq qui s'appelait L'extension du domaine de la lutte, j'avais été heureusement surpris par le livre que je trouve... qui est le meilleur de Houellebecq, j'ai pas lu le dernier, donc à mon sens, mais que le fait que ce livre avait pu être publié et avait pu être lu, parce que tout ce qui était littérature des années 80 et 90 était extrêmement figé. C'est-à-dire que vous aviez d'un côté la littérature extrêmement classique, comme les romans de d'Ormesson et tout ça, puis vous aviez tous les avatars, alors moi c'est mes vieux à moi, hein, tous les avatars des 68ards, etc., des gens qui étaient dans la littérature formaliste ou je ne sais quoi, et qui étaient très cloisonnés, parce que ceux-là, ils avaient un public très particulier, ils étaient publiés dans des maisons très particulières, et d'autre part, vous aviez cette littérature, je dirais, de grand public, et moi je me reconnaissais ni dans l'une ni dans l'autre. Et moi, quand ce livre de Houellebecq est sorti, moi, j'avais déjà écrit pas mal de mes livres, dont certains qui sont sortis après, comme Clémence Picot, Histoire d'amour et tout ce que vous voulez. Mais simplement, je me suis dit, là, peut-être que ça ouvre un champ dans la société française. Et je me suis dit, peut-être que là, on va pouvoir s'intéresser à une littérature différente. Et c'est ce qui s'est passé. Quant au champ qu'a ouvert Houellebecq, oui, je pense que c'est un bon écrivain qui a écrit de bons romans. Et j'ai toujours pensé d'ailleurs que dans l'extension du domaine de la lutte, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau, qui n'était pas seulement ou pas tellement sur un plan littéraire, mais qui était sur un plan des idées. cette espèce d'idée que il y avait extension du domaine de la lutte parce qu'il y avait une liberté sexuelle qui arrivait, que certains se retrouvaient sur le bord de la plage et pouvaient pas en profiter. Voilà. Mais je m'étais sûrement mal exprimé, et puis en tout cas je suis vraiment désolé d'avoir été aussi agressif. C'est pour ça que je répugne souvent à faire ce genre de truc, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui dit que je suis pas, après je suis pas content. Voilà. Non, mais alors les gens de 50 ans, alors là, oh là là, vous verrez quand vous aurez 50 ans, si vous avez un jour, oh là là, c'est pas, non, c'est vraiment, je conseille à personne d'avoir 55 ans. Hein. Ça, alors là, parce que c'est le moment où on commence à vous prendre pour un vieux con, vous savez. Alors, c'est désagréable, hein. Ça fait pas plaisir déjà. Et puis non, moi j'aime pas du tout avoir 55 ans. Je suis assez d'accord avec vous, hein, les écrivains de 55 ans devraient déjà être morts, hein, c'est sûr. Puis c'est pas forcément un signe de talent, hein, d'être toujours vivant à 55 ans, hein, parce que vous voyez quand même les grands écrivains, regardez Balzac, il est mort à 51 ans. Hein. Moi je trouve que c'est plutôt mal barré en fait, parce que après vous allez arriver à vous, on arrive à se répéter tout ça. Non, c'est mieux de. On est dans une société où c'est mieux de sortir de l'œuf, vous savez. C'est-à-dire que ce qui est valorisé de plus en plus, c'est ce qui est récent. C'est-à-dire qu'on se compare un peu avec des objets technologiques. Vous voyez, c'est-à-dire que l'iPhone qu'il faut avoir, c'est le 5 qui n'est pas encore sorti. C'est-à-dire que cette espèce de notion de modernité et de pureté et de faire comme si le savoir, le talent, c'était d'apparaître, cette espèce d'apparition. Et donc, effectivement, moi, je trouve que l'âge idéal que je conseille à tout le monde, c'est 18 ans. Mais en même temps, je le conseillerais à personne parce qu'on est dans une société qui adule la jeunesse et puis j'allais faire une rime que je ne ferai pas parce qu'on est dans un... Mais qui adule la jeunesse et qui, en réalité, ne lui donne ni l'argent ni le pouvoir, donc lui donnant rien. Donc voilà, c'est ça qui est ennuyeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, vous voyez, là, vous avez 35 ans, mais peut-être quand vous aurez 55 ans, vous serez effectivement de ce côté-là. Et il y a un peu une dichotomie, c'est-à-dire qu'on voudrait, l'idéal serait d'être jeune et d'avoir la parole. Et en fait, de moins en moins, la jeunesse a la parole. On le donne de moins en moins. À tort ou à raison. Enfin, moi, j'en profite, hein, donc vous savez, je rêve pas de vous la donner. Hein.
Peut-être pour finir, juste, je ne vais pas vous parler de votre âge, mais de votre...
Si, vous pouvez y aller. Non, mais je le dis tous les 5 minutes en plus.
Vous allez voir,
c'est pire. Il n'y a rien qui m'amuse autant.
Parce que dans Microfiction, vous projetez votre propre mort.
Oui.
Vous dites, vous parlez de la mort de Régis Chauffray, il est tombé d'un dictionnaire où il se juchait pour faire sa cuisine. Alors, est-ce que c'est la mort rêvée de l'écrivain de tomber
non,
du dictionnaire?
Non, vous savez, je pense que j'ai un côté un peu... vous savez, le côté... oui, on essaie un peu de oui, comme je disais tout à l'heure, d'amuser la galerie, quoi. C'est un peu l'image dictionnaire. Puis en faisant sa cuisine, vous savez, en France, on est tellement admiratif des cuisiniers. Vous savez, on admire beaucoup plus les cuisiniers que les écrivains. Hein. On est quand même obsédé. On est même une époque obsédée de cuisine. C'est très drôle, quoi. Cette façon d'admirer les cuisiniers et tous les gens qui vous gonflent avec leurs histoires de vin, vous savez, ils ont des caves. Tiens, j'ai un ami qui est éditeur, qui est Bernard Wallet d'ailleurs, qui a édité la plupart de mes ouvrages, qui me racontait qu'il était dans sa maison de campagne, il était avec quelqu'un, un bobo comme vous et moi, et qui lui dit « Est-ce que tu peux me montrer ta cave ?» Alors il l'a emmené à la cave et il y avait la chaudière. Vous savez, il n'avait pas compris qu'en fait c'était une cave à vin, vous voyez. Et donc, je pense, quand on est vraiment au bout de son rouleau, eh ben, on s'intéresse à la cuisine et à la cave à vin. Enfin, quand on n'est pas caviste de métier ou cuisinier. Donc là, c'était un peu... Vous savez, c'est très drôle de parler de soi dans un livre, surtout en mal, parce que déjà, on se fait pas très mal, parce qu'on n'appuie pas vraiment où ça ferait mal. Et puis, c'est très drôle. C'est très drôle. Alors, c'est très drôle surtout pour soi. Après, pour les autres, pas toujours. Mais là, c'est quand même marrant, non ?
Oh bah c'est très, ah drôle. Oui, c'est très, très drôle. Drôle, les tombées de... bah écoutez, je voulais d'abord remercier Francine Figuière qui nous a reçus aujourd'hui. Et puis, je vous remercie aussi pour cet entretien.
Bah écoutez, moi, je vous remercie. Et puis, je suis désolé d'avoir été agressif parce que à chaque fois, je suis obligé de... Mais normalement, la personne est déjà partie. Donc, comme vous êtes là, je vous fais des excuses publiques si j'ai été agressif. Voilà, merci.